Studio Tamani, voici nos informations en français.
Il est 8h à Herba, localité située dans le cercle d'Onsongo, même heure sur l'ensemble de nos radios partenaires. Monsieur Dam, bonjour et bienvenue à la matinale. Voici les titres. À la demande de la Côte d'Ivoire, une rencontre sur l'affaire des 49 militaires ivoiriens aura lieu le jeudi en marge de la 77e session de l'Assemblée générale des Nations unies. Des observateurs préconisent la voie du dialogue comme solution à cette crise. Face à l'insécurité grandissante, les régions de Menaka et Gao, certains partis politiques alertent pour une action régionale. D'autres, par contre, appellent au dialogue. La 13e édition des rencontres de Bamako Biennale africaine de la photographie aura lieu du 8 décembre au 8 février 2023 à Bamako. Déjà, un lancement officiel des préparatifs a eu lieu ce lundi. Plus de 30 000 participants sont attendus. À la présentation, Mariam Maïga, la mise en onde est assurée par Mamadou Ouattara. La 77e Assemblée générale des Nations unies se poursuit à New York. Parmi les sujets évoqués, l'affaire des 49 militaires ivoiriens détenus au Mali. Cette question réunira le Mali avec d'autres chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO. Le chef du gouvernement par intérim, Abdoulaye Maïga, est déjà sur place pour prendre part à la rencontre. Moussa Malé Sissoko.
À la demande de la Côte d'Ivoire, les dirigeants de la CEDEAO vont se retrouver autour de l'affaire des 49 soldats ivoiriens détenus au Mali. Ce sommet extraordinaire se tiendra ce jeudi 22 septembre 2022 à 17h en marge de l'Assemblée générale de l'ONU à New York. Cette rencontre se déroule après l'annonce de la Côte d'Ivoire de saisir la CEDEAO. Pour Abidjan, ces militaires sont détenus en otage. Alors la réaction des autorités maliennes ne se fait pas attendre. Dans un communiqué, le gouvernement de la transition indique que l'affaire des 49 mercenaires ivoiriens est purement judiciaire et bilatérale. Le communiqué précise également que ce n'est nullement une crise diplomatique devant la CEDEAO. Cette tractation se déroule au moment où le Togo joue le rôle de médiateur dans cette crise. D'ailleurs, trois femmes parmi les détenues ont pu être libérées. À noter que ces soldats ivoiriens sont arrêtés au Mali depuis le 10 juillet dernier.
L'enlisement de cette situation est en train de prendre le dessus sur le règlement pacifique de cette crise. C'est du moins ce que déclare N'Golo Diarra. L'universitaire estime que l'affaire des militaires ivoiriens devient un sujet qui oppose la justice de deux États. Il préconise la voie du dialogue comme solution. Écoutons la réaction de Dr N'Golo Diarra, enseignant-chercheur à l'Université des sciences juridiques et politiques de Bamako. Il intervenait dans l'émission Le Grand Dialogue d'hier.
Conformément au dispositif de la Charte des Nations Unies, surtout l'article 52, 53, 54, qui donne ou bien qui autorise les organismes régionaux de régler leurs différends avant de recourir à la force. Alors donc, pour ça, la Côte d'Ivoire, à long terme, risque de saisir l'organe juridique ou bien d'écouter un juge communautaire dans cette situation, la Cour de justice de la CEDEAO. Alors donc, pour trouver réparation. Le Mali, de son côté aussi, au nom de la présomption de licéité des autorités nationales, pourra se défendre. Alors donc, ce qui est quand même important, c'est de travailler pour éviter l'annulement de la situation. Si le règlement pacifique a montré ses limites, on va vers des règlements juridiques.
Rejoignez la communauté Studio Tamani en laissant vos critiques et suggestions sur notre page Facebook ou encore sur Twitter. La situation sécuritaire qui prévaut à Menaka et Gao a interpellé certains partis politiques. Si certains d'entre eux préconisent une action régionale pour mettre fin aux affrontements, d'autres estiment qu'il faut mettre en avant le dialogue. Le point avec Aïssata Diarra.
Les partis ADEMA et ASJ dénoncent les affrontements menés dans les régions du Nord qui ont fait des morts et des déplacements massifs des populations. Selon ses responsables, il est temps d'échanger des stratégies. Yaya Sangaré, secrétaire général de l'ADEMA et ASJ.
Comme c'est une zone également située au niveau des trois frontières. Il va falloir à ce niveau qu'il y ait une action concertée de ces trois forces armées pour que nous puissions arriver à bout de ces genres de situations. Parce que c'est des gens qui ne sont pas installés sur notre territoire, qui viennent d'autres territoires. Tels que nous apprenons, c'est des gens d'abord qui sont en nombre très élevé et qui sont dotés de moyens également sophistiqués.
Pour le secrétaire général du Parti pour la convergence et le développement du Mali, CODEM, c'est le moment d'être solidaire et soutenir l'armée pour protéger les populations. Alassane Abba, secrétaire général du CODEM.
Le premier soutien à faire d'abord, c'est à l'armée nationale du Mali, en appeler à une certaine retenue de la part de tous les djihadistes et se dire quelque part que ce conflit ne profite à personne, si ce n'est à ceux qui vendent les armes. Nous disons à l'armée de prospecter d'autres voies, notamment la voie du dialogue.
Le secrétaire général de l'ADEMA PASJ demande aux partenaires et aux personnes de bonne volonté de se mobiliser pour aider les personnes déplacées, car d'après lui, elles sont dans une situation humanitaire assez déplorable.
Parlons agriculture. La campagne agricole 2022-2023 se poursuit normalement au sud et au nord du Mali. Une bonne répartition pluviométrique est signalée de part et d'autre. De Ségou à Goundam, en passant par Niafinké, les agriculteurs estiment que la récolte est plus prometteuse cette année malgré le contexte sécuritaire. Cependant, la disponibilité de l'engrais subventionné reste une des difficultés majeures pour les producteurs. Les détails dans ce reportage de Adjaratou Konati avec le concours des correspondants locaux.
La campagne agricole de cette année évolue malgré les nombreux défis auxquels font face les agriculteurs. À Ségou, le producteur évoque une situation sécuritaire plutôt calme. Abou Traoré, agriculteur à Ségou.
Concernant la situation sécuritaire, elle est stable cette année. Ceux qui ont les moyens d'acheter des engrais peuvent faire de bonnes récoltes contrairement aux autres.
Une production agricole plus prometteuse grâce à la situation pluviométrique, expliquent les responsables agricoles. Amadou Almoudou, chef secteur agriculture à Goundam.
Il y a un grand écart de pluie entre la campagne passée et cette campagne. L'état des cultures est satisfaisant sur l'ensemble. Les niébés, ramification, maturité, le ripive, répicage, calage à certains niveaux. Le sorgho de décrit au stade de maturité, le bombo à ramification.
À en croire les différentes réactions, l'accessibilité aux intrants agricoles, notamment l'engrais, reste la difficulté majeure de cette campagne cette année. Mahaman Maïga, chargé de la gestion de la mare de Goubo dans les cercles des Niafunké.
Au lieu d'aller à 6 sacs à l'hectare, cette année on a vu que l'État nous donne que un demi-sac à l'hectare. Les exploitants achètent ça à 40 000 francs le sac de 50 kilos. Vraiment, il faut que l'État voit quelque chose qu'il peut faire pour les exploitants. Il n'y a pas de carburant. Si on part à Mopti pour chercher le bon carburant, il nous limite à un fi, deux fi maximum. On est obligé d'aller courir sur le carburant de l'Algérie qu'on trouve sur le marché. C'est pas bon.
Selon les rapports régionaux de 2022 sur la sécurité alimentaire et nutritionnelle en Afrique de l'Ouest, la production céréalière au Mali a connu une baisse de 15% ces 5 dernières années.
Un sujet signé Adjaratou Konaté. Sur un tout autre plan, le patriotisme a-t-il aujourd'hui un sens pour le Malien? C'est l'une des questions posées par Studio Tamani en cette veille de 22 septembre, fête de l'indépendance. Ce concept, qui est un mot fétiche de certains révolutionnaires, est-il un mythe ou une réalité? Quelles sont donc les valeurs qui incarnent le patriotisme? Quel rôle doit jouer un bon patriote en temps de crise? Halima Yattara nous en dit plus.
Pour moi, le patriotisme, c'est d'obéir aux lois de son pays et d'éviter tout ce qui est interdit par la loi.
Le patriotisme, c'est aimer sa patrie et la respecter.
Le patriotisme, c'est le fait d'aimer son pays et de le défendre par tous les moyens.
Voici comment certains Maliens décernent le patriotisme. Du côté des sociologues, le patriotisme se définit comme étant le fait de défendre sa patrie, respecter ses lois et sa constitution. Docteur Yakuba Dogoni.
Le patriotisme, d'abord sentir l'existence d'une patrie. La pratique d'appartenance à une patrie est appelée le patriotisme. Alors, c'est quelque chose qui invite à tous les citoyens de s'investir durablement dans les actions politiques.
Les traditionalistes affirment que les droits des enfants constituent un concept qui se cultive dans la société. Mamadou Ben Chérif Diabaté, traditionnaliste.
Le patriotisme d'aujourd'hui, de mon point de vue, il réside dans la différence entre la formation des jeunes. génération. Quand je dis formation, c'est éducation. L'éducation, c'est de la maison à l'école, dans la rue. Et donc, ça faisait vraiment une complémentarité.
Les sociologues et les traditionalistes se rejoignent sur un point. Ils estiment que le patriotisme doit être enseigné dans les programmes scolaires et à tous les niveaux.
Allons au sud du pays où les autorités scolaires préparent activement la rentrée scolaire prochaine à Yorosso. Les initiatives tournent autour de la réouverture des écoles fermées à cause de l'insécurité et le recrutement d'enseignants volontaires pour certaines communes du cercle. Pour en savoir plus, suivons ce reportage de notre correspondant à Yorosso, Ali Haïdara.
À Yorosso, plus d'une cinquantaine d'écoles sont fermées depuis 2019 pour des raisons sécuritaires. Des initiatives locales ont permis la réouverture de certaines d'entre elles, avec le recrutement d'enseignants volontaires. Ngolo Goïta, maire de la commune de Koumbia.
Moi-même, j'ai appelé les autorités à Bamako pour leur expliquer que nos parents qui ont terminé leurs études et qui n'ont pas d'emploi peuvent être recrutés pour dispenser des cours dans nos écoles. C'est ainsi que les parents d'élèves ont accepté de payer 8 500 francs par élève pour qu'on puisse prendre en charge ces enseignants volontaires.
Une fois recrutés, ces enseignants reçoivent des accompagnements de la part des autorités scolaires et de certains partenaires. Mamadou Berthe, directeur du centre d'animation pédagogique de Yorosso.
Lorsque les communautés arrivent à recruter des enseignants volontaires, on va voir dans quel cadre on peut faire en sorte que ces enseignants volontaires soient dans les conditions de faire leur travail pédagogique, notamment à travers la formation, mettre aussi des kits à la disposition des enfants, et réhabiliter les salles de classe si c'est possible.
D'autres communes sont à pied d'œuvre pour que toutes les écoles fermées soient réouvertes pour la rentrée scolaire prochaine prévue le 3 octobre. De Yorosso, Ali Haïdra pour Studio Tamani.
Cap sur Bamako où la 13e édition des rencontres de Bamako Biennale africaine de la photographie se tiendra du 8 décembre au 8 février prochain. La cérémonie de lancement officiel des préparatifs de l'événement a eu lieu ce lundi 19 septembre au Musée national sous la présidence du ministre de l'Artisanat et du Tourisme. Selon les organisateurs, cet événement d'envergure internationale se veut un espace dédié à la photographie et à la vidéo africaine sur le continent. Jiadata Maïga.
Pour cette année, la Biennale sera axée sur la multiplicité, la différence, le devenir et l'héritage. Selon le délégué général des rencontres de Bamako, Cheikh Diallo, près de 75 personnalités artistiques du domaine de l'art africain et plus de 30 000 visiteurs sont attendus.
Il s'agit de veiller et de participer à façonner une véritable professionnalisation de la photographie sur le continent. Notre engagement est de créer des conditions de son autonomisation et d'inscrire sa nouvelle gouvernance comme un modèle de réussite.
Le ministre de l'Artisanat, de la Culture, de l'Industrie hôtelière et du Tourisme, Andogli Guindo, rend pour sa part un hommage aux pionniers de la photographie au Mali. Pour lui, les rencontres de Bamako sont une plateforme de révélation des artistes africains et de la diaspora.
La Biennale est la première et principale manifestation internationale consacrée à la photographie contemporaine et également aux nouvelles images en Afrique. En dépit du contexte, le gouvernement du Mali tient à maintenir ce rendez-vous culturel majeur.
À noter que cet événement est financé par le gouvernement français, l'UNESCO, l'Union européenne, la Suisse, le Royaume du Maroc et les États-Unis.
Studio Tamani, financé par le gouvernement de la Suède, du Danemark, de la Suisse, la République tchèque et par l'Union européenne.
L'actualité régionale en brève. Fladougou Sebekoro, cercle de Kita, a désormais un établissement scolaire privé pour les études. L'établissement démarrera ses premières activités à la rentrée des classes le 3 octobre prochain. Selon le responsable des jeunes de Sebekoro, ce lycée était attendu par la population. Il permettra, selon lui, d'atténuer la souffrance des élèves qui étaient obligés d'aller poursuivre les études à Kita. Allant à Baflabé ou à Godi, un village de la commune rurale de Tomora, les jeunes du village ont décidé de réhabiliter la route dans leur localité. Ils étaient nombreux ce week-end sur le tronçon Godi-Oussoubidjania, long d'une vingtaine de kilomètres. Ces jeunes volontaires ont bouché les nids de poules et élagué les branches d'arbres le long de la route. L'opération vise à faciliter le passage des camions, l'évacuation des produits agricoles et l'entrée des articles de commerce. Terminons par Kay où on a assisté au démarrage de la formation des arbitres. Plus d'une quarantaine d'arbitres de football au niveau du district ont débuté la formation le lundi dernier. L'objectif est de renforcer les capacités techniques de ces arbitres sur la loi du jeu. La session de formation est organisée par le district de football de Kay et va durer 6 jours. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. C'était à la présentation Mariam Maïga. La mise en onde est assurée par Mamadou Ouattara. Ne décrochez pas car juste après le magazine du jour, vous aurez la version en bambara avec Idrissa Sakho. De nombreux assurés de l'Institut national de prévoyance sociale INPS se plaignent de la lourdeur administrative au niveau du traitement des dossiers. Ils déplorent aussi le manque d'informations au niveau de ces agences. Toutefois, l'INPS reconnaît qu'il y a quelques difficultés notoires. Cependant, il apporte quelques précisions sur leurs modalités de fonctionnement. À l'occasion des journées portes ouvertes de l'Institut, Lisa Camara, chargée de la télédéclaration à l'INPS, répond aux questions de Lale Tangara.
L'INPS a une seule mission, recouvrer les cotisations des employeurs, moyennant paiement des prestations sociales. Il y a les pensions, les allocations familiales, les indemnités journalières.
Parmi les services que vous venez de citer, est-ce qu'il y a un service méconnu?
Tous nos services sont connus. Il y a beaucoup de primes au niveau de l'INPS. Si vous avez des enfants, que vous touchez l'allocation familiale des enfants, on peut vous donner l'allocation familiale des enfants. Je peux dire qu'autrefois, les services n'étaient pas connus. Parce que la communication ne passait pas. Maintenant, avec le NETIC, l'informatique.
Pour une femme enceinte ou bien celle qui vient d'accoucher, est-ce qu'il y a un prix pour cette dernière?
Une femme qui vient d'accoucher, normalement, prend son salaire à l'INPS. Il y a les primes de première nécessité. Par exemple, une femme qui est enceinte. Là, s'il se manifeste au début, il peut toucher des primes avant les 7 mois.
Maintenant, les clients se plaignent beaucoup de la lourdeur administrative pour avoir accès au CERF. Qu'est-ce que vous avez à dire à ça?
C'est vrai que les assurés sont méconnus. Ils ne sont pas informés de ce qui se passe à l'INPS. Maintenant, avec le temps qui court, les informations passent. On a un site maintenant où tous nos services sont sur ce site. On demande aux employeurs, aux assurés, maintenant de consulter ces sites.
Et les gens qui ne sont pas allés à l'école, qui ne sont pas sur l'Internet?
Exactement. Bon, on est là en train de faire des diffusions dans les radios. On fait beaucoup de communication maintenant pour être en contact avec nos assurés.
Et quand un assuré ne vient pas prendre ses primes, et que devient cette somme?
L'assuré qui ne se présente pas pour prendre ses allocations, par exemple un assuré qui a accouché, doit prendre une prime pour son enfant, s'il est en retard de 9 mois, on peut lui payer ces 9 mois. Mais après les 9 mois, là, sera plus valide.
Quel lien existe-t-il entre l'INPS, la CANAM et la CMSS?
L'INPS, la CANAM, il y a un lien très fort. Parce que l'INPS ne peut pas marcher sans la CANAM. La CANAM a été créée à l'INPS. Parce que la déclaration de l'INPS est faite et la déclaration de l'AMO le suit directement. Les deux se fait en même temps. Une personne qui vient pour faire la déclaration de l'INPS, s'il paye la déclaration de l'INPS et qu'il ne paye pas la déclaration de l'AMO, on l'exige à faire.